en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le philosophe Rémy Brague a prononcé devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques l'éloge du philosophe et grammairien Jean-Marie Zimbe. Cette retransmission vous permettra d'entendre d'abord le président de l'année 2010, Jean Ménard, recevoir et présenter officiellement Rémy Brague, puis ce dernier présenter la notice qu'il a rédigée sur la vie, les travaux et la pensée du philosophe germaniste Jean-Marie Zimbe, son prédécesseur, dans la section philosophie. Cette séance se déroulait dans la grande salle des séances de l'Institut de France le lundi 13 décembre 2010. Précisons que Jean-Marie Zimbe avait été élu le 11 janvier 1999 au fauteuil laissé vacant par le décès du révérend père Raymond Brugberger. Quant à Rémy Brague, il a été élu le 7 décembre 2009. Entrez dans la salle des séances.
Chers confrères, chers amis, sur les trois présentations de nouveaux élus auxquelles j'ai été convié à me livrer par les fonctions de président de l'Académie des sciences morales et politiques, se sont rencontrés successivement d'abord un historien, puis un médecin et maintenant un philosophe. J'ai éprouvé une grande satisfaction à constater cette pluridisciplinarité effective de notre compagnie et à essayer d'y participer. Il s'est trouvé aussi que chacun de ces élus était à l'avance bien connu de moi, si bien que je pouvais prendre un plaisir particulier à les accueillir, non seulement comme des auteurs ou des acteurs de la vie contemporaine, mais un peu comme des familiers. Il en va plus que jamais ainsi encore aujourd'hui. Chers amis, je considère même comme une date importante pour moi celle où j'ai eu pour la première fois l'occasion de m'entretenir avec vous. C'était au début de l'automne 1975, il y a donc 35 ans, et c'était au téléphone. Nous étions à la veille du lancement de la revue Communio, grande aventure de l'esprit à la fin du XXe siècle, dont je ne savais encore rien. Vous m'appeliez de la part du groupe de jeunes gens, anciens normaliens en début de carrière professorale, qui avaient pris l'initiative de l'entreprise avec l'appui des meilleurs esprits du catholicisme français. Vous vous étiez recommandé particulièrement du père Bouillet, derrière lequel je devinais la caution des pères Danielou et de Lubac, sans doute aussi celle du père von Balthasar, qui traduisit quelques années plus tard un de mes articles en allemand. Voilà qui nous campe dans un milieu très clérical. S'il faut faire le point à ce sujet, je dirais que ces religieux étaient d'abord des princes de l'esprit. Deux d'entre eux étaient d'ailleurs entrés à l'Institut, l'un à l'Académie française, l'autre dans notre propre Académie. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais cessé de rester en rapport avec ce groupe de jeunes qui, par votre intermédiaire, m'avait envoyé un appel. En une période singulièrement troublée, je trouvais un immense espoir pour l'avenir dans des personnalités qui, à des dons intellectuels éblouissants, joignaient une grande solidité morale, des convictions lucides et assurées et une joie de vivre contagieuse. Le temps a passé. La revue Communio, sans rien renier de ses hautes exigences primitives, a gardé un large public. Prenant de l'âge, ses jeunes fondateurs, en début de carrière, demeurés collaborateurs toujours assidus, se sont associés des amis plus jeunes où ils retrouvaient l'esprit qui les animait. Parallèlement, ils sont devenus des autorités dans leur discipline. Ils ont occupé de brillantes chaires universitaires en France et à l'étranger. Et tout naturellement, l'heure est venue pour eux de manifester de légitimes ambitions académiques. Notre ami Jean-Luc Marion, que je suis heureux de saluer ici, vient de franchir les portes de l'Académie française et vous voilà vous-même à celle de l'Académie des sciences morales et politiques, où vous siégez déjà depuis quelques temps. J'ai la chance de pouvoir y procéder à votre consécration officielle en essayant de retracer, à ma façon, vos éminents mérites. Je commencerai par vous prendre au mot, en généralisant même, en répétant ce que vous dites de vous-même dans la postface de votre livre, peut-être le plus personnel, celui qui est intitulé « Europe, la voie romaine ». Vous y définissez ce que vous appelez votre objet unique. Et vous écrivez « Celui-ci n'est pas le contenu de la culture européenne, dont je ne traite que de façon oblique, mais uniquement la forme de celle-ci. Il s'agit pour moi, à propos de la transmission de ce contenu, de tirer au clair le dynamisme interne qui rend possible l'aventure culturelle de l'Europe. » Voilà une déclaration singulièrement audacieuse pour un philosophe qui semble devoir s'intéresser presque exclusivement à la substance des idées, en laissant éventuellement de côté le dynamisme humain qui les porte. Mais notre culture nous a appris, et vous en avez retourné et retenu, que toute création est d'abord l'imposition d'une forme. Comme Buffon l'a si bien dit, c'est dans un certain style que se rencontre l'humanité. Eh bien, je vais vous traiter comme vous traitez vos auteurs, en essayant de vous caractériser vous-même par quelques aspects du style de votre œuvre. Vous avez d'abord le style de la communication. L'important lorsque vous écrivez n'est pas d'abord de mettre de la matière de ce que vous avez à dire, mais le lecteur. Il vaudrait mieux dire l'interlocuteur auquel vous ne cessez de vous adresser en dépit de son absence. Vous vous dévoilez d'ailleurs vous-même à cet égard par l'étonnant entretien sur lequel s'ouvre votre livre au moyen du Moyen-Âge. Comme si le discours monologue ne prenait tout son sens qu'autorisé par le dialogue. Pour aller directement à l'effet le plus trivial de cette constatation, vous êtes un auteur de rêves pour collection de poches, lesquels ont accueilli presque tous vos ouvrages, soit dès leur lancement, soit au fort de leur succès, obtenant aussi de nombreuses rééditions. Vous vous êtes même offert le luxe de publier sous cette forme des recueils de vos articles, type d'ouvrage qui passe pour invendable. Pourtant, vous ne vous recommandez ni comme un favori des médias, ni comme un idéologue dans le vent. L'attention privilégiée que vous portez à des époques anciennes n'était pas faite pour plaire à nos générations contemporaines avides d'actualité. Mais vous vous êtes fait une règle de toujours saisir le passé en relation avec le présent, ce qui offre le double avantage de faire mieux comprendre le passé en y découvrant des permanences et des ruptures, et d'améliorer la perception du présent par le jeu de comparaison qui, en cette matière, fournissent un incomparable moyen de connaissance. Démarche qui, pour être efficace, exige une méfiance constante à l'endroit de l'anachronisme, source d'innombrables méprises dont se nourrissent les idéologies. Mais toutes ces finesses de la recherche vous sont très familières, et la façon dont vous parvenez à vous en jouer, en accompagnant toujours votre pensée de la réflexion qui l'éclaire, contribue à instaurer cette sorte de complicité entre auteur et lecteur qui constitue à la fois le charme et le fruit de la communication. Une pensée aussi naturellement vivante ne peut en même temps qu'aspirer à la forme la plus claire, encore une barrière ôtée sur le chemin qui s'ouvre vers le dialogue possible. Je reconnaîtrai encore en vous, une autre forme de style, le style de l'autorité. Ce que vous communiquez n'est pas un simple avis personnel, ou lorsque c'est le cas, vous le déclarez expressément. Votre projet, c'est de mener à bien une quête de vérité. Exigence capitale dans toute œuvre de recherche, mais ce qui vous distingue, c'est la domination qui s'affirme en vous sur votre savoir. Elle éclate d'abord par l'extension considérable du domaine que vous entendez couvrir. Certes, vous êtes d'abord philosophe, et c'est sur ce terrain que vous avez la formation la plus complète. Mais comme j'y ai déjà insisté, les idées ne vous intéressent jamais seules. Vous y ajoutez leur accompagnement humain. Vous les insérez dans la culture qui les porte. Vous devez donc aussi recourir à l'histoire. Et vous ne cessez de le faire. Bien entendu, vous vous imposez des limites et vous avez une spécialisation très marquée. D'abord dans les matières, mais elles ont elles-mêmes une énorme extension puisqu'elles concernent à la fois le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est-à-dire qu'elles incluent le domaine religieux. Ajoutons-y encore tout le savoir linguistique qui en commande l'accès et que vous possédez fort bien pour la théorie et pour la pratique, sans oublier toutes les techniques d'interprétation des textes, on aboutira aux mêmes constatations si l'on s'interroge sur la manière dont vos recherches se localisent dans l'espace et dans le temps. Vous êtes surtout helléniste et médiéviste, et cantonné principalement dans l'univers méditerranéen et européen. Cela s'imposait de bien larges limites, d'autant que celles-ci sont largement problématiques, et que, pour les situer exactement, il faut savoir les reculer, au moins à titre d'hypothèse, et les changer selon les époques. Enfin, le reste du monde, historique et géographique, ne cesse jamais d'avoir à jouer son rôle. Vous n'ignorez rien de tout cela, et vous vous piquez d'en tenir compte. Votre domination sur votre savoir ne s'affirme pas seulement par les étendues considérées, mais par la profondeur du regard que vous leur appliquez. Les multiples analyses de détails que vous proposez se prolongent en vastes synthèses. L'un des fils conducteurs de votre œuvre est, me semble-t-il, constitué par le rapport étroit que vous établissez entre cosmologie et anthropologie. Il apparaît dans votre grande thèse « Aristote et la question du monde » publiée en 1988 et se retrouve amplement dans votre livre « La sagesse du monde » 1999, où l'histoire de ce rapport est présentée comme dominant toute l'histoire intellectuelle, morale et spirituelle de l'Occident. Vous avez eu certes des inspirateurs, mais au fil des pages, votre thème prend toutes sortes de figures neuves et imprévues. Puisque j'ai voulu vous reconnaître un style d'autorité, je me dois de préciser encore un peu ce que j'entends par là. Si cette distinction peut avoir un sens, ce n'est pas l'autorité d'un chef, mais celle d'un maître. L'autorité de ce dernier n'est pas seulement personnelle, elle est surtout reçue. Reçue d'autres autorités qui sont sa caution et dont il est témoin. Ainsi, l'autorité des textes et de documents auxquels il se doit de faire référence, non sans apprécier leur valeur. Éventuellement aussi, dans le cas des religions, des autorités sacrées qui peuvent s'insérer, selon des modalités diverses, dans des discours humains. Le texte de vos œuvres abonde en manifestation d'un souci scrupuleux de manifester votre dette et votre dépendance à l'égard de ces autorités garantes de la vôtre. Vous avez même la coquetterie de signaler telle perte possible d'autorité que peut entraîner de votre part une information reçue de seconde main. On souhaite que ce qui peut sembler excessif pour vous devienne la règle pour d'autres. Après ce que je viens de dire, on sera peut-être surpris que je garde en réserve, comme un autre trait de votre style, sur lequel je terminerai mon propos, ce que j'appellerai le style de l'essai. Avec le genre de l'essai, nous restons certes dans le domaine des idées, mais elle s'exprime avec une liberté toute nouvelle. Elle reste beaucoup plus étroitement liée à leur inventeur. Elle se présente comme des suggestions plus que comme des démonstrations. Elles peuvent se prêter à la fantaisie. Comment concilier les contrariétés qui se rencontrent ainsi? Que le problème se pose vraiment, vous nous en donnez vous-même la preuve. Vous témoignez fréquemment d'exigences qui sont celles de l'érudition la plus rigoureuse. Mais vous employez à peine moins fréquemment le mot « essai » pour désigner vos ouvrages. Ainsi, dans le sous-titre de votre savante et très universitaire thèse de doctorat, ainsi dans la postface d'Europe, la voie romaine. On pourrait penser que le mot serait employé là dans un sens un peu vague et fort éloigné de son usage premier et de celui qu'il reçoit chez Montaigne. Mais ce serait mal reconnaître l'exactitude impeccable de votre langue française. Ce serait surtout oublier à quel point le mot correspond bien à l'un des aspects de votre style. Dans cette perspective, il serait possible d'éclairer d'une lumière nouvelle certaines observations déjà faites, celles en particulier qui font ressortir une présence constante de votre moi tout au long de votre discours. J'ai noté un exemple d'introduction dialoguée à l'entrée du moyen du Moyen-Âge. Nous étions là en présence d'un style de communication. Mais vous vous livrez aussi quelques pages plus loin, à l'intérieur de l'ouvrage lui-même, à une présentation en forme qui ressortit davantage au genre de l'essai. Vous l'intitulez « Autoportrait d'un transfuge », ce dernier mot appelant une explication qui permet d'introduire un nouveau procédé caractéristique de l'essai. Si vous donnez la qualité de transfuge C'est parce que, ayant éprouvé d'abord une vocation pour l'étude de la philosophie grecque, vous vous êtes trouvé, par le hasard de votre carrière, conduit à celle du Moyen-Âge, et que vous vous y êtes complu, découvrant, chemin faisant, celle des Arabes et celle des Juifs. De cet itinéraire tourmenté, vous est finalement resté une passion pour le Moyen-Âge que vous estimez urgent de faire partager et qui vous conduit pour ce faire à avancer des raisons devenues peu à peu impersonnelles et universelles. Inutile de dire que le récit de cet itinéraire, si sérieux qu'en soit l'objet, se déroule sur un ton plein d'humour, fort éloigné de celui qu'exige l'exposé classique de la philosophie, mais qui n'apparaîtra pas tout à fait étranger à la philosophie si l'on songe au dialogue de Platon et aux essais de Montaigne. De cet humour, dont la présence est à peu près constante tout au long de vos œuvres, comme d'ailleurs dans votre conversation, il me semble qu'il faut, comme le mot essai, l'entendre dans son sens le plus obvie. Il comporte dérision de soi-même, affectation de modestie, visant à atténuer, sans la dissimuler, la gravité des sujets abordés et à présenter le rapport humain dans l'échange des idées. Il a aussi pour effet d'adoucir les arêtes du langage et d'étoffer le sens des mots de manière à en accroître la force suggestive, en allant parfois jusqu'au jeu de mots et à la superposition féconde des sens. On peut en relever de nombreux exemples significatifs dans vos titres, ceux des ouvrages eux-mêmes et ceux des sous-titres intérieurs qui confèrent une clarté supplémentaire à votre texte. Comme exemple, retenons d'abord la formule titre qui annonce votre ouvrage le plus connu, « Europe, la voie romaine ». Quelle superposition de sens propre et de sens figuré. Mais ces doubles sens ne sont pas des non-sens. Au contraire, ils multiplient les sens, car chaque lecture en a un. Vous dites dans votre postface, en vous déclarant penaud de l'avouer, que ce beau titre vous a été suggéré par Jean-Luc Marion. Permettez-moi de croire que c'est Jean-Luc Marion contaminé par Rémy Brague, qui, car les titres de notre ami, lorsque les deux jeux semblables s'y trouvent, sont à la fois plus abstraits et plus énigmatiques. À l'exemple d'un certain étant donné, point de suspension, qui ouvre un livre de phénoménologie. Reconnaissons que vous savez, vous aussi, cultiver l'énigme, comme pour le titre « La sagesse du monde », expression dont le sens n'est pas celui qui est habituellement reçu. Et mieux encore, dans cet ouvrage, la longue analyse de ce que vous appelez l'excès abrahamique. Voilà un beau titre, mais un titre très énigmatique. Ces dernières remarques et ces derniers exemples, dont je laisse chacun chercher l'explication dans le livre, car il s'y trouve, fournissent le moyen de résoudre une difficulté que je relevais dans la présentation de mon propos. Comment la fantaisie de l'essai, surtout portée à son comble, comme c'est le cas avec vous, peut-elle se concilier avec la rigueur technique de l'exposé conceptuel ? C'est qu'une même pensée est présente de part et d'autre, qu'elle vise toujours à déboucher sur une réalité, et que la diversité des moyens d'expression ne fait que répondre d'une manière sans doute particulièrement adéquate à la complexité d'une recherche où le rapport avec le monde va se transcrire dans le rapport avec les hommes. J'ai beaucoup parlé de vous, comme il m'appartenait de le faire pour cette présentation officielle. Vous allez parler vous-même de notre regretté confrère Jean-Marie Zell. Pour en dire moi-même quelques mots, je relèverai seulement quelques traits par lesquels vous vous ressembliez, produisant ainsi dans notre compagnie le sentiment que sa succession a été dignement assuré. En tous les deux, d'abord, se réalise une association étroite de la philosophie et de la linguistique, complétée par un grand amour des langues. Puis, une connaissance approfondie de la langue et de la culture allemande, qui se complète chez vous par celle que possède aussi votre épouse. Enfin, un attachement philosophique profond à l'œuvre d'Aristote, auquel vous tenez vous-même à associer Platon, lui-même, ne parler que d'Aristote. Mais vous parlerez de lui mieux que moi. Vous avez la parole.
Qu'on me permette de commencer par une remarque personnelle. Comme il arrive parfois dans la rédaction d'une notice sur un prédécesseur, l'étude de la vie et de l'œuvre de Jean-Marie Tsemp m'a permis non seulement de mieux connaître sa personnalité et ses réalisations scientifiques, mais, si je puis dire, de m'éprendre de cet homme et d'entrer en sympathie avec lui. À ce point que l'expression un peu figée « le regretter Jean-Marie Tsemp » a pris pour moi un sens autrement profond. Je regrette, effectivement, de n'avoir pu lui parler que deux fois à l'occasion de mes deux précédentes candidatures. Certes, le courant passa tout de suite entre nous, mais la crainte de donner l'impression que ma sympathie pourrait être intéressée, qu'on pourrait l'interpréter comme une façon de pousser un pion sur l'échiquier d'une prochaine élection, seule cette crainte m'a empêché de la cultiver plus avant, ce que, rétrospectivement, je regrette aujourd'hui amèrement. Certes, nous avions d'emblée des affinités électives très manifestes, entre autres l'amour de la philosophie grecque et celui de la langue allemande. Mais il me semble que ces affinités sont appelées en moi à s'approfondir et se multiplier encore au contact de son œuvre. Le mort saisit le vif. De la figure imposée, voire du pinsum de bizutage académique, est sortie la prise de conscience d'une parenté qui n'était alors que simplement soupçonnée. La présente notice est donc à comprendre comme constituant pour moi le programme d'une tâche de familiarisation accrue avec cet homme source. Je suivrai un plan des plus classiques. Je commencerai par parcourir les principales étapes de sa vie, non sans souligner de temps à autre ce qui en fait la cohérence profonde. Puis je tenterai de ressaisir les lignes de fait de son œuvre. Enfin, je me risquerai à une esquisse de sa pensée grammaticale. Jean-Marie Tsemp était né le 14 juillet 1928 à Erstein, ville située à quelques 20 km au sud de Strasbourg et qui comptait alors un peu plus de 5000 habitants. On y parle un dialecte alsacien de la famille alémanique. Comme son pays d'origine, pris entre deux États et deux cultures, Jean-Marie Tsemp sut faire de ce qui aurait pu être un handicap, et qui le fut à maints égards, un avantage. Le mot « Tsemp » désignerait, dans le dialecte alémanique de la région de Entelbourg en Suisse, dans le canton de Lucerne, non loin d'Emmental, un arbre, l'épicéa ou le mélèze. Les ancêtres de Jean-Marie Tsemp étaient pêcheurs, menuisiers, paysans. Jean-Marie Tsemp se décrivait lui-même comme un Alsacien de langue maternelle française. Il parlait le français avec l'accent prononcé de sa région et l'allemand officiel, le haut-allemand, avec un accent alémanique. Il parlait en outre le dialecte local et il faut donc parler dans son cas moins de bilinguisme que de trilinguisme. Il fit ses études secondaires à Strasbourg, sous le régime français d'abord, puis allemand à partir de 1940. À la fin de la guerre, l'adolescent fut enrôlé, bien entendu sans qu'on lui ait demandé son avis, dans la DCA, FLAC, de la Wehrmacht à Kiel. Un autre gamin, âgé d'un an de plus, le petit Sepp Ratzinger, devenu depuis, entre autres, membre correspondant de notre académie, dut lui aussi servir dans la DCA et déserta à peu près au même moment. En novembre 1944, Jean-Marie Tsemp dut sa vie à un sergent d'un certain âge qui dit aux enfants dont il avait à s'occuper « Demain, vous partez pour le front de l'Est. Ce soir, je ne ferai pas l'appel. » Jean-Marie Tsemp s'échappa donc. Grâce à son ami Pierre Tsink, présent ici, il put se cacher dans le clocher d'une église voisine. Il ne dut pas attendre longtemps, car l'armée Leclerc, à la surprise générale, libéra la région peu après. Cette évasion lui rapporta la distinction dont il était le plus fier, la médaille des réfractaires. De 1946 à 1953, Jean-Marie Tsemp poursuivit des études supérieures de philosophie en France, puis en Allemagne. Entré chez les dominicains du Saulchoir, qui étaient revenus alors en France à Étiole, il y obtint en 1950 une licence de philosophie scolastique. La personnalité qui le marqua le plus fut alors Yves Congar, théologien spécialiste d'ecclésiologie, qui sera plus tard fait cardinal, et dont Jean-Marie Tsemp resta très proche. La formation scolastique lui permit d'acquérir une grande familiarité avec la pensée de saint Thomas d'Aquin et celle d'Aristote, qui était la référence philosophique principale de Thomas et qui restera la sienne propre. En juillet 1951, il épousa Gertrude Traute Wolfsegger, une jeune Autrichienne artiste peintre qu'une bourse de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne avait permis de gagner Paris pour y étudier à l'atelier de Fernand Léger. En 1953, naît leur premier fils, Thomas, chimiste, que je salue ici, et en 1957, leur second, Patrick, médecin gynécologue et obstétricien, que je salue également. Jean-Marie Tsemp obtint ensuite une licence et un DES de philosophie à la Sorbonne, où il fut marqué par l'enseignement de René Poirier. La licence consistait encore en 4 certificats. Un personnage de son dialogue à trois, qui lui ressemble d'ailleurs étrangement, se souvient de l'oral du certificat de logique et philosophie générale, où il avait déjà montré quelques réticences à l'égard de la façon traditionnelle d'enseigner la syllogistique. En Allemagne, Jean-Marie Tsemp étudie à l'université de Fribourg-en-Brisgau. Dans l'immédiate après-guerre, la ville et l'université étaient marquées par la figure de Martin Heidegger. Celui-ci n'enseignait plus depuis la fin de la guerre, mais restait dominant. Tsemp ne semble pas avoir été marqué par l'enseignement du penseur de Mesquer. Jean-Marie Tsemp termina ses études de philosophie par un doctorat. Il se choisit comme directeur Max Müller, qui enseignait à Fribourg depuis 1946. J'ai pu examiner rapidement la dissertation sur un exemplaire que j'ai fait venir de Fribourg à Munich. Cet ouvrage dactylographié de 89 pages s'intitule « Éthique de l'essence et éthique de la situation à la lumière d'une métaphysique de la liberté humaine ». Les références sont des plus classiques, Aristote, Thomas d'Aquin, Spinoza. Jean-Marie Tsemp devait revenir aux préoccupations éthiques près d'un demi-siècle plus tard, dans une communication faite devant cette académie à la fin 2002, « La morale est-elle durable ?» Les années d'apprentissage philosophique de Tsemp et son enseignement en Allemagne ont produit un petit ouvrage sur Aristote qu'il rédigea en allemand. Il en était resté très fier et le considérait comme son chef-d'œuvre. Publié pour la première fois en 1961, ce petit livre fut 16 fois réédité et traduit en japonais, en grec, en coréen et enfin en français. Jean-Marie Tsemp n'abandonna jamais son intérêt initial pour la philosophie. S'il ne produisit pas lui-même de travaux personnels dans cette discipline, il traduisit plusieurs ouvrages de l'allemand au français. Sa thèse complémentaire était une traduction, précédée d'une introduction, de la métaphysique générale de Gottfried Martin. Ce travail resta inédit, mais Jean-Marie Tsemp présenta l'ouvrage de Martin dans un article de la Revue de métaphysique et de morale, paru en 1969. Il arrive à Jean-Marie Tsemp de faire allusion à quelque chose comme une position philosophique personnelle lorsqu'il parle d'un réalisme critique et de son attachement constamment renouvelé et approfondi à la cohérence ultime et à l'intelligibilité de l'être. Entre 1952 et 1961, Jean-Marie Tsemp enseigne à l'Institut français de Hambourg et donne également quelques heures comme lecteur à l'université locale. 3 autres personnalités sont en même temps que lui présentes à l'Institut qui feront parler d'elle. Michel Foucault, qui en devint le directeur en 1958, Jean-Louis Gardy et Gilbert Kahn. C'est également à Hambourg que Jean-Marie Tsemp fit la connaissance du physicien Carl Friedrich von Weizsäcker, dont il suivit le séminaire pendant le semestre d'hiver 1959-1960. En outre, assisté du compositeur Claude Baliff, il occupa une partie de son temps à monter une troupe de théâtre qui, faute de moyens pour payer des costumes, ne jouait qu'en ombre chinoise. Jean-Marie Tsemp entreprend en même temps des études de germanistique et de grammaire comparée sous la direction de Jean Fourquet. Il achève cette reconversion et opte définitivement pour une carrière en France en passant l'agrégation d'allemand en 1960. Après l'année de stage, il enseigne quelques années dans des lycées parisiens, à Carnot, puis à Paul Valéry. Grâce au professeur François Lhermitte, qui fut de nos confrères, Jean-Marie Tsemp occupa également de 1964 à 1966 un poste de vacataire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service de diagnostic et de traitement des aphasies. Il y observa les éléments du langage que les malades perdent ou conservent selon leur type de trouble. C'est sur cette base expérimentale qu'il échafauda sa théorie des 3 parties constituantes de toute langue, j'en parlerai tout à l'heure. Ces années 50 et 60 sont marquées par une activité intense dans le domaine de l'édition. Il le dut en partie à son amitié pour Rainer Bimmel, un Saxon de Roumanie. Celui-ci avait publié, sous le pseudonyme de Jean Rouneau, un roman où il décrivait le camp soviétique où il avait été captif. Le livre fut l'objet d'un procès analogue au procès Kravchenko. Bimmel avait un rôle important aux éditions Desclée de Brouwer et avait lui-même fondé la maison d'édition Office central de librairie, OCDL, maison qui s'occupait essentiellement de manuels scolaires et universitaires. C'est dans ce cadre que Jean-Marie Tsemp refit le célèbre Becherel. La seconde édition du volume « L'orthographe pour tous » est de lui. De même, il publia en 1970 un volume d'exercices de grammaire où il tente de mettre à la portée des instituteurs et de leurs élèves les méthodes de découpage des énoncés qui étaient les siennes. Pour Desclée de Brouwer, il effectua près d'une dizaine de traductions. Elles sont signées Marc Tsemp, son prénom dans l'ordre dominicain. Et les catalogues des bibliothèques les répertorient sous ce nom. On peut les diviser en deux groupes. Il y a d'une part des ouvrages philosophiques de Max Müller, Bernhard Welte et Gustav Sievert. Il y a d'autre part des travaux d'histoire de la liturgie catholique dus à plusieurs auteurs. Cette activité intense, pas moins de 10 livres entre 1953 et 1962, a pu avoir des raisons alimentaires. Reste que le choix des auteurs et des thèmes est particulièrement intéressant et révélateur. D'une part, il ne s'agit que de personnalités scientifiques de tout premier rang qui furent des célébrités outre-Rhin. D'autre part, la liturgie chrétienne, dans sa version catholique, doit intéresser quiconque s'occupe de sémantique. Le sacrement, qui, selon la formule consacrée, réalise ce qu'il signifie, « efficit quod significat », présente un problème de philosophie du langage particulièrement passionnant. Jean-Marie Tsemp n'a pas seulement traduit de l'allemand vers le français, il traduisit également du français à l'allemand pour la collection de monographies de l'éditeur Rowohlt. Deux volumes des collections parallèles « Maître spirituel » et « Écrivain de toujours » que publiaient alors les éditions du Seuil. Ce fut le cas du livre d'Émile d'Erminghem sur Mahomet ou celui d'Yves Bonnefoy sur Rimbaud. L'activité de traducteur n'est pas quelque chose d'extérieur par rapport aux préoccupations du linguiste. En effet, elle n'oblige pas seulement, ce qui est très évident, à acquérir une connaissance approfondie de la langue de départ et de la dextérité dans le maniement de la langue d'arrivée. La pratique de la traduction implique aussi de se poser la question du rapport entre langue et pensée. La tendance aujourd'hui dominante, en attendant probablement un prochain coup de balancier, est à prétendre tout uniment que la pensée n'est rien d'autre que le langage. Cependant, si les deux ne sont que l'avers et le revers d'une même pièce de monnaie, comment peut-on traduire ? Que traduit-on au juste ? Sinon quelque chose comme une pensée qui reste dans l'idéal d'une traduction sans traîtrise, la même au-delà des différences entre langues. Là aussi, il faut se garder d'hypostasier le langage qui planerait au-dessus des différentes langues concrètes. On peut céder à la tentation de réduire la pensée à ce langage fantomatique. Mais personne n'oserait dire que la pensée se réduit à une langue concrète sans que quiconque a fait l'expérience de la traduction ne s'esclaffe. C'est sur le fond de sa pratique de la traduction que Jean-Marie Tsemp se mit à chercher l'universel qui s'incarne dans chaque langue. Le 18 juin 1968, Jean-Marie Tsemp soutient sa grande thèse intitulée « Les structures logiques de la proposition allemande, contribution à l'étude des rapports entre la langue et la pensée ». Elle avait été préparée sous la direction de Jean Fourquet, spécialiste de grammaire allemande et de littérature allemande du Moyen-Âge. Mort centenaire en 2001, après avoir formé des générations de germanistes français. L'ouvrage de Tsemp fut publié la même année, 1968. Le titre préfigure le futur intitulé de sa chaire au Collège de France. Le contenu porte essentiellement sur le lien entre le thème et le rème qu'il devait plus tard appeler le fème. J'expliquerai tout à l'heure ces termes. Cette thèse permit à Jean-Marie Tsemp de commencer une carrière dans l'enseignement supérieur. Il enseigne la linguistique allemande, d'abord comme maître de conférence à Besançon. Il est ensuite élu professeur à Paris 8, alors à Vincennes. « Par erreur », expliquait-il, sa barbe et ses remarques non conformistes l'avaient fait prendre par les gauchistes qu'on avait parqués en ce lieu pour un des leurs. L'erreur rectifiée, il trouva refuge à Paris 3, Sancier, et enfin à Paris 10, Nanterre. Parallèlement à son activité à Besançon, Jean-Marie Tsemp donnait des cours au département d'allemand de la Sorbonne encore indivise, au Grand Palais. Je dispose sur cet enseignement d'un témoignage de première main, celui de mon épouse. Elle a le souvenir d'un cours de grammaire où ce professeur inhabituel avait commencé par parler d'Aristote, à la grande surprise des étudiants, dont la plupart ne connaissaient du philosophe grec guère plus que le nom. Le cours était à la fois très ardu et parfaitement passionnant. Les étudiants savent très bien si un professeur se donne du mal pour eux. C'était le cas de Jean-Marie Tsemp, qui était donc respecté et aimé. Souvent, il arrivait en cours avec une feuille polycopiée sur laquelle figuraient des dizaines de phrases, les unes en allemand, les autres en une apparence d'allemand. Tous les mots étaient authentiques, mais la syntaxe ou le simple ordre des parties du discours y était impossible. Le jeu cruel consistait à démasquer les phrases qui faisaient seulement mine d'être de l'allemand, mais ne pouvaient pas en être. Et surtout, il fallait dire pourquoi. En 1985, Jean-Marie Tsemp fut élu au Collège de France, où il enseigna 13 ans, de 1986 à 1998. L'intitulé qu'il avait choisi pour sa chaire, « Grammaire et pensée allemande », dit bien les deux aspects qu'il ne voulait à aucun prix séparer. Il prononça sa leçon inaugurale le 25 avril 1986. Sa leçon terminale fut multiple, puisqu'il parla en français au Collège de France le 16 décembre 1997, à Strasbourg le 24 mars 1998 et en allemand à Hambourg le 10 juin de la même année. La carrière de Jean-Marie Tsemp est jalonnée de plusieurs distinctions françaises, allemandes et autrichiennes. En 1980, il reçut la Croix du Mérite de la République fédérale allemande, Bundesverdienstkreuz, et 20 ans plus tard, en 2001, la Légion d'honneur. En 1989, ses élèves et amis lui offrirent un recueil de mélanges. Depuis 1996, il était membre correspondant à titre étranger de l'Académie des sciences d'Autriche. Et depuis 1999 également, membre correspondant à titre étranger de la Joachim Jungius Gesellschaft der Wissenschaften de Hambourg. Enfin, le 11 janvier 1999, Jean-Marie Tsemp fut élu à l'Académie des sciences morales et politiques en section de philosophie, au fauteuil où s'était porté candidat Emmanuel Lévinas, auquel on avait alors préféré le révérend père Raymond Brugberger. Jean-Marie Tsemp mourut le 15 février 2007 à Lorient, où il était allé avec sa femme rejoindre son fils médecin. L'avant-veille, il avait achevé son dernier ouvrage, un dialogue à trois entre un philosophe, un grammairien et un logicien. Parmi ses dernières paroles, une en allemand, « Alles ist fraglich, Gott ist evident », tout est problématique, Dieu est évident, et une en français, je quitte l'ombre pour la lumière. Ce qui frappe dans les œuvres de Jean-Marie Tsemp, c'est d'abord l'extrême virtuosité dans le maniement de la langue, à l'oral comme à l'écrit. En français comme en allemand, il jongle avec les vocabulaires techniques de différentes disciplines, avec les niveaux de langue, et surtout pour l'allemand, avec les variétés dialectales. Son style est rempli d'images, d'allusions ou de réminiscences littéraires. Il appréciait tout particulièrement ces expressions juteuses qui font le sel d'une langue. Jean-Marie Tsemp a passé sa vie entre l'allemand et le français, appliquant sa réflexion à la confrontation des deux langues. Son chef-d'œuvre est de toute évidence sa monumentale « Grammaire comparée du français et de l'allemand ». Elle comporte deux volumes, « Comparaison des deux systèmes » paru en 1978 et « L'économie de la langue et le jeu de la parole » publié en 1984. Il s'agit d'un véritable océan dans lequel certaines courtes parties sont dues à des élèves. Cette œuvre apparemment sans rivage était pourtant inachevée. Un troisième volume était prévu qui devait s'appeler « L'art et la nature ». Jean-Marie Tsemp publia d'autres travaux sur l'allemand, cette fois en langue allemande. Ce furent en 1972 « Phrases, mots, discours, structure sémantique de la phrase allemande », puis en 1994 « Clarification cognitive, dialogue sur la phrase allemande ». La somme grammaticale de Jean-Marie Tsemp est un ouvrage bilingue, mais dont les deux textes sont différents. La page impair en français n'est en rien la traduction de la page pair en allemand. L'ouvrage est tout entier pensé dans les deux langues, qu'il confronte constamment, c'est son objet même, mais il est rédigé différemment dans chacune. Il en est de même de ses émissions vidéo, thème, fème, rem, et le billard de la tribu, qui éclaire très utilement sa pensée souvent difficile. Elles aussi existent dans une version allemande, qui n'est pas la traduction de la version française. D'où un effet étrange. Jean-Marie Tsempe s'est fait filmer au moment où il prononçait le texte français. Dans la version allemande, c'est bien sa voix, mais elle dit parfois tout autre chose, sans bien sûr que les sons émis et perçus correspondent au mouvement des lèvres. Une production à laquelle il contribua gagna un large public dans les pays de langue allemande. Il s'agit d'une série télévisée destinée à l'apprentissage de la langue française et réalisée entre 1974 et 1976. L'entreprise se replaçait dans le cadre d'un effort des deux pays voisins pour développer l'étude de la langue du partenaire, effort des plus louables et enthousiasme dont on peut regretter qu'il se soit refroidi depuis. La série s'intitulait « Les gamas, les gamas !» L'intrigue est très simple. Les héros sont trois extraterrestres, à l'allure tout à fait humanoïde, venus de la planète Gamma, à la grande surprise des terriens, d'où l'exclamation apeurée qui sert de titre à l'émission. Les héros sont contraints, à la suite d'une avarie de leur vaisseau spatial, d'atterrir dans un pays qui se trouve, comme par hasard, être la France. Forcés d'entrer en contact avec la population locale, il leur faut communiquer en une langue qu'ils doivent apprendre à partir de rien. Le téléspectateur partage donc les émois et les surprises de nos extraterrestres et, en 39 leçons, reconstruit le français à partir de ses éléments les plus simples. Jean-Marie Tsempe prit la responsabilité didactique de cette série qui a eu un grand succès. Je me souviens d'en avoir regardé un épisode en Autriche, dans la famille d'une jeune fille au pair que nous avions employée et qui nous disait le plus grand bien de l'efficacité pédagogique de l'émission. Mais l'entrée la plus spectaculaire de Jean-Marie Tsempe sur la scène publique des pays germaniques s'opéra au moment de la réforme orthographique. Cette réforme était déjà étrange. L'orthographe de l'allemand ne cause guère de difficultés, en tout cas beaucoup moins que ce n'est le cas pour notre chère langue maternelle, et ne parlons pas de l'anglais. L'orthographe allemande semblait donc ne guère avoir besoin d'une réforme, pas plus par exemple, que celle de l'espagnol. Et pourtant, une telle réforme fut proposée en 1996. Elle ne concernait que quelques points, comme la question de savoir quels mots on considère comme des substantifs qui prennent la majuscule, comment germaniser les mots d'origine étrangère, comment écrire d'un seul tenant ou en deux morceaux les verbes dits composés, où mettre la virgule, etc. Les modifications proposées ont presque entraîné une guerre civile. Jean-Marie Tsempe a combattu certaines bizarreries de la réforme, d'abord par des articles dans la presse, puis en 1997 par un petit livre qui a connu un grand retentissement. Pour une orthographe sensée, invitation à réfléchir sans perdre la face. Outre son activité d'érudit et de professeur, Jean-Marie Tsempe avait une haute conscience de ses devoirs de citoyen. Il avait été très vivement intéressé par son année passée comme auditeur de l'Institut des hautes études de la Défense nationale en 1970. Depuis son lancement en 1996, il participait aux travaux de la Commission générale de terminologie et de néologie, à laquelle présidait alors notre confrère Gabriel Debreuil. La pensée de Jean-Marie Tsempe est loin d'être facile à comprendre. Même ses collaborateurs les plus proches m'ont avoué avoir mis des années à en saisir les subtilités. Je ne saurais prétendre faire mieux en quelques mois d'études. Tout au plus pourrais-je donner quelques indications. Et tout d'abord, il me semble que pour avoir quelque chance de pénétrer cette pensée, il faut comprendre à quelle discipline Jean-Marie Tsempe entendait se rattacher. Il ne se nommait pas lui-même « linguiste ». Je ne me souviens d'ailleurs pas d'avoir très souvent rencontré sous sa plume le mot « linguistique ». Il préférait se désigner comme « grammairien ». L'objet propre de la linguistique est en effet, comme son nom l'indique, le langage. Or, selon Jean-Marie Tsempe, le langage n'existe pas, il n'y a que des langues. Le terme de grammaire est alors des plus adéquats, puisqu'on ne parle pas de la grammaire en général, mais seulement de la grammaire d'une langue déterminée, parlée dans une aire géographique dont on peut tracer les frontières, qui évolue avec le temps, par exemple, la grammaire du français et de l'allemand. Jean-Marie Tsempe parlait également de grammaire philosophique. Il se replaçait ainsi dans la tradition médiévale de la grammaire spéculative. Cette expression de grammaire philosophique est d'ailleurs quelque chose comme un pléonasme, puisque dès l'origine, ce sont des philosophes qui ont forgé les catégories grammaticales. C'est le cas de Platon dans le Cratyle et le Sophiste que Jean-Marie de Sempe aimait citer. C'est aussi celui d'Aristote, en particulier dans le traité de l'interprétation. C'est enfin celui des stoïciens. Il n'y a peut-être jamais eu de grammaire qui n'ait été philosophique. Et c'est aux philosophes grecs qu'il connaissait fort bien que Jean-Marie de Sempe ne cessait de renvoyer, même là où il rendait compte de subtilités grammaticales de langue moderne. Ainsi, jusque dans un manuel à l'intention des étudiants, il a recours à la distinction entre les catégories aristotéliciennes de lieu et de position pour expliquer l'emploi de l'accusatif et du datif selon qu'il y a ou non ce que les manuels traditionnels appellent « mouvement ». Il montre de la sorte la fécondité de la réflexion des penseurs de l'Antiquité. Une chercheuse allemande qui a consacré un article à ce nouveau départ n'hésite d'ailleurs pas à l'intituler « Une linguistique aristotélicienne, le nouveau commencement de la grammaire philosophique » par Jean-Marie de Sempe. L'énoncé de la chaire que Jean-Marie de Sempe occupa au Collège de France, « Grammaire et pensée allemande », est mis par lui-même en parallèle avec la distinction devenue classique depuis Ferdinand de Saussure entre langue et parole, entre le système des possibilités ouvertes par le vocabulaire et la syntaxe et les réalisations d'une partie de celle-ci dans des énoncés concrets. Jean-Marie de Sempe livre une indication précieuse sur les raisons qui l'ont amené à se pencher sur la grammaire. Je cite « Mes interrogations sont toutes surgies de la conscience, aux deux sens du mot, de l'enseignant qui ne veut pas, ne peut pas, enseigner comme sûr des doctrines qui lui paraissent d'abord douteuses et ensuite, quand se profile leur raison, carrément fausses. » Fin de citation. Ces milliers de pages sont donc sorties tout entières du scrupule du professeur devant sa classe qui refuse de transmettre ce dont il ne peut être absolument certain. Il explique, chez cet homme qui respectait les traditions, le tour critique que prennent bien de ses remarques sur la grammaire traditionnelle. Pour reprendre un jeu de mots qui figure dans le titre d'un des articles de Jean-Marie de Sempe, l'héristique et l'heuristique débouchent l'un sur l'autre. Le reproche global qu'il adresse à la grammaire traditionnelle est d'accorder trop d'importance à la forme et de négliger la fonction. Il va donc falloir analyser, sans se laisser influencer par des erreurs en théorie grammaticale devenues inconscientes parce que 100 fois répétées depuis les petites classes. Prenons quelques exemples. On classe les phrases en principales et subordonnées, propositions principales et propositions subordonnées. La principale se distingue de l'indépendante parce qu'elle fait dépendre d'elle une autre phrase. Mais comment analyser un énoncé, je reprends un des exemples de Jean-Marie de Sempe, un énoncé comme « Le consul se fâche parce que le licteur a giflé le prêteur. » Il est gros d'une ambiguïté qui éclate si on lui applique la négation. En effet, on obtiendra alors deux énoncés que l'on ne pourra différencier que par la prosodie ou, si on le couche par écrit, par la ponctuation. Soit d'une part, « Le consul ne se fâche pas parce que le licteur a giflé le prêteur », et d'autre part, le consul ne se fâche pas, virgule, parce que le licteur a giflé le prêteur. Nous sommes devant deux situations totalement différentes. Dans le premier cas, le pauvre consul avait tellement de raisons de perdre patience que cette altercation entre le sbire et le juriste n'était que le cadet de ses soucis et ne saurait expliquer le courroux qu'il laissa bruyamment exploser. Dans le second cas, cette tête à claque de prêteur avait tellement agacé le consul que celui-ci fut soulagé lorsque le licteur passa à l'acte, réalisant ainsi un vœu qu'il ravalait depuis longtemps, ce pourquoi il resta de marbre devant l'incident. L'application de la négation montre de la sorte que l'énoncé forme un tout, et un tout dans lequel les rôles s'inversent, la prétendue principale étant, quant à son sens, pour ainsi dire, à son tour dépendante de la subordonnée. Devant ces saturnales, Jean-Marie de Sempe préférait dire que l'énoncé que l'on appelle proposition principale est un foncteur et rien de plus. Un second exemple pourrait être la terminologie grammaticale qui pratique des distinctions peu pertinentes. Ainsi, nous avons tous appris dans les petites classes à distinguer la préposition qui est suivie d'un nom et la conjonction qui est suivie d'un verbe. La grammaire est de la sorte amenée à distinguer après la pluie, après qu'il a plu, après avoir été trempé. Le critère est de pure forme, alors que la fonction est rigoureusement la même. On distingue également, d'une part, l'attribut du verbe « être » et divers compléments de lieu, de temps, de manière. Nous avons pris l'habitude de réserver le terme « attribut » à la prédication d'une qualité, laissant de côté d'autres prédications pourtant très semblables. Mieux vaudrait retourner à l'école d'Aristote et regrouper sous le même terme de « catégorie », catégorie de l'accident si l'on y tient, tous les prédicats exprimables par le verbe « être », et ce, qu'ils soient qualitatifs, « nous sommes français », quantitatifs, « nous sommes une quarantaine », temporel, « nous sommes l'après-midi du 13 décembre », de position, « nous sommes assis », et autres. Vous êtes assis, pardon. La conception du langage propre à Jean-Marie de Semp repose sur la distinction et l'articulation de trois éléments. Pour nommer cette structure tripartite, il reprit les dénominations très classiques, grecques d'origine, de « thème » et de « rème ». Mais il y ajouta un troisième mot, « fème ». Ce mot, « fema », qui, à la différence du très classique « fème », n'est attesté en grec ancien qu'une fois et dans un glossaire collectionnant les mots accouchés dehors, fut frappé par le logicien et philosophe américain Charles Sanders Peirce. Le thème est ce dont on parle. Le sujet, si l'on veut, mais non pas au sens grammatical de sujet de la phrase, mais au sens plus général de ce dont on parle, comme on dit indifféremment le thème d'un exposé ou le sujet de la conversation. Le thème est de l'ordre de la désignation. Il relève de la perception ou de l'imagination. Ces éléments peuvent être juxtaposés en une simple parataxe. Le rème est ce que l'on dit à propos du thème, l'information que l'on communique à son sujet. Le mot désignait en grec ce que nous appelons le verbe, qu'on peut également dire « prédicat ». Mais le verbe n'est pas là non plus ce que la grammaire classique appelle ainsi. Dans « pêcher à la ligne », c'est l'expression entière qui constitue un verbe, et qui d'ailleurs peut être exprimée par un seul mot, comme c'est le cas en anglais, allemand, russe, etc. Le « rème » est de l'ordre de la signification. Il relève du concept. Il est essentiellement structuré, car l'ordre des mots y change le sens. « Savoir-faire » et « faire savoir » n'ont pas le même sens. Cette structure, Jean-Marie de Semp l'appelle « hypotaxique ». Le « fème », il recouvre à peu près ce qui s'appelait en grammaire classique la copule, mais ne s'y épuise pas. Celle-ci, comme son nom l'indique, relie, associe, accouple, sujet et prédicat. C'est avec le « fème » que font leur apparition le « vrai » et le « faux ». Le fème, je cite, modalise la relation entre la signification conceptuelle portée ou connotée par le rème et le fragment de réalité désigné ou dénoté par les coordonnées thématiques. Mais, alors que la copule au sens habituel se réduit au seul verbe être, Jean-Marie de Semp y voit une sorte de pont à plusieurs arches dont chacune symbolise ce qu'il appelle des modalités. Le mot est employé par lui en un sens plus large que lorsque l'on parle de modalité du jugement, désignant par là les catégories de la possibilité et de la nécessité. Jean-Marie de Semp distingue quatre de ces arches qu'il classe selon un ordre décroissant, du plus objectif au plus subjectif. La première concerne l'affirmation ou la négation. Jean-Marie de Semp l'appelait en conséquence, puisqu'il fabrique de la vérité, modalité halétique. La seconde modalité concerne le caractère nécessaire ou simplement possible de ce qui est asserté. C'est ce que les philosophes, Kant en particulier, appellent modalité tout court. La troisième modalité, que Jean-Marie de Semp appelle épistémique, concerne le degré de probabilité, non pas des faits, mais de la connaissance que nous en avons, en relève des formes comme « peut-être »,« probablement » ou, à l'inverse, « sans doute », »,« à coup sûr ». Il ne faut pas la confondre avec la possibilité des faits avec laquelle elle peut être en syzygie ou, au contraire, en opposition. « Peut-être pourra-t-il venir ?»« Aucun doute, il se peut qu'il vienne. » Enfin, la plus subjective des modalités est la quatrième, que Jean-Marie Tsemp nomme « affective » ou « sociale ». C'est celle qui ajoute une couleur à l'énoncé et nous fait dire « heureusement » ou « hélas » ou encore « comme chacun sait ». Ces quatre modalités sont présentes dans toutes les langues. Cependant, Jean-Marie Tsemp dit à plusieurs reprises que le langage n'existe pas et qu'il n'y a que des langues concrètes. Il s'est donc attaché à décrire deux langues particulières et sans juger l'une par rapport aux critères de l'autre. Donnons-en un exemple. Tous les étrangers qui ont tenté d'apprendre l'allemand connaissent ce phénomène déroutant qu'on appelle l'inversion. En un mot, le verbe se met dans les propositions indépendantes et les propositions dites principales à la même place qu'en français, c'est-à-dire à la seconde place après le sujet et son groupe. Mais dans les subordonnés, il gagne l'extrême fin de la phrase, non sans dérouter les non-germanophones ou encore non sans susciter l'humour de Mark Twain. Ce que l'on désigne à l'accoutumée par les termes d'inversion ou de rejet. Ces dénominations supposent que l'ordre naturel des mots dans la phrase serait celui qui est de mise dans les propositions indépendantes, les subordonnés faisant preuve par rapport au principal d'une certaine perversion, pour ne pas dire d'une certaine insubordination. En fait, ladite dénomination montre surtout que les catégories de la grammaire allemande ont été forgées à un moment, le XVIIIe siècle, où le français exerçait une sorte d'impérialisme culturel et faisait passer ses propres idiosyncrasies pour « normales ». Or, selon Jean-Marie Tsemp, en allemand, c'est dans la proposition dite « subordonnée » que les mots apparaissent dans leur ordre naturel, de tel ordre que ce sont plutôt les autres types de propositions qui sont à l'envers. En fait, c'est tout simplement que le français et l'allemand procèdent dans deux directions différentes. Empruntant sa terminologie à la syntaxe structurale de Lucien Tesnière que son maître Fourquet devait faire rééditer, Jean-Marie Tsemp distingue des langues centrifuges et des langues centripètes. Dans les langues centrifuges, le déterminé précède le déterminant. Dans les langues centripètes, c'est le déterminant qui précède le déterminé. Alors que le français est centrifuge, l'allemand, comme le latin, est centripète. Un exemple simple. La place normale de l'adjectif, en allemand comme en anglais, est avant le substantif. En français, l'adjectif se place après le substantif, sauf lorsqu'il constitue avec celui-ci une unité de sens. Pourquoi se donner tant de peine à rétablir l'analyse véritable des langues, par-delà les bévues des grammaires traditionnelles ? Jean-Marie Tsemp a lui-même répondu brièvement à cette question en faisant valoir trois points. Je cite, « une théorie plus proche des faits et solidairement plus logique facilite la programmation de plusieurs types de traitements de textes, notamment de la traduction automatique, c'est-à-dire davantage assistée par l'ordinateur. C'est un enjeu économique et politique considérable à moyen terme. » Deuxième argument, « une théorie plus philosophique que les grammaires scolaires rendrait intérêt et dignité à l'enseignement du français, notamment dans la perception déformant de ces complexes à structure centripète, et réhabiliterait l'intérêt de l'étymologie et de l'orthographe. Troisièmement, une théorie plus adéquate du créole noble qu'est le français faciliterait aussi son apprentissage par les étrangers, et notamment par les immigrés, en faisant préférer au manuel unique, simplifié et néanmoins indigeste, voire décourageant, des méthodes spécifiques parce que plus attentive aux contrastes particuliers aux couples de langues concernées. En préparant cette notice et en m'interrogeant sur le patronyme de mon prédécesseur, je me suis aperçu non sans surprise que « zambe », prononcé comme « jambe », est en français un nom commun. Il figure dans le littré qui, citant un géographe, le définit comme un insecte, une espèce de thon vivant en Abyssinie. Pour le commun des mortels, le thon n'est pas un animal très sympathique, et on lui préfère l'abeille industrieuse ou la gentille coccinelle. Il n'en est pas ainsi pour le philosophe, surtout s'il est amateur de philosophie grecque, comme l'était notre ami disparu. Le thon est en effet l'animal auquel aimait se comparer le saint patron de la corporation philosophique, Socrate en personne. Dans son Apologie de Socrate, Platon fait dire à son maître qu'il est comme un thon qui piquerait un cheval de bonne race, mais un peu paresseux comme l'était la cité d'Athènes, pour l'empêcher de s'endormir sur ses lauriers et l'exciter à chercher sans relâche. Notre regretté confrère était de cette race. Écrivant des dialogues dans lesquels il imite la maïeutique socratique, il s'est montré non seulement grammairien, mais tout aussi décidément philosophe. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre successivement Jean Ménard présenter Rémy Brague et Rémy Brague lire la notice qu'il a consacrée, selon l'usage, à son prédécesseur Jean-Marie Zimbre.